Tarsi. Alors ça, c'est le cadeau que j'ai donné à David en Noël 2019. Et puis, il trouvait ça très beau. J'ai dit, écoute, quand tu vas aller à Paris, mets ça sur ton bureau. Mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Alors, j'ai expliqué. J'ai dit, ça veut dire, prends courage. Alors, il est devenu tout nerveux à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ça va-tu être dur? À ce moment-là, j'étais loin de penser qu'on se ramasserait dans ce en quoi on s'est ramassé depuis quelques mois. Hein. Et puis, mais j'ai dit, écoute bien, David, dans la vie en général, tu as besoin de courage. Tu vas avoir besoin de courage dans tous les aspects de ta vie. Tarsi, alors rappelle-toi de ça. Alors, il me dit que c'est sur son bureau, puis quand des fois il devient découragé, il regarde ce mot-là, puis ça lui donne un peu de souffle. Alors, j'avais mentionné la semaine dernière que ce texte-là se trouve à 7 reprises dans le Nouveau Testament, dans des différents contextes, et selon le contexte, on apprend des choses, ça peut nous toucher. La semaine passée, on en a vu 3. La première fois qu'on voit ce texte-là, c'est dans Matthieu 9, alors que Jésus parle à un paralytique et lui dit « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Alors, à quelqu'un qui est accablé par ses péchés, cette parole-là est pour vous ce matin. « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Gratte pas la gale, reviens pas en arrière. T'es a confessé, c'est pardonné. La deuxième circonstance où on voit ce texte-là, ce mot-là, tarsi, c'est avec la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Et ça, ce texte-là, c'est cette expression-là, prends courage, tarsi, c'est pour les gens qui passent par des épreuves qui durent. Dans son cas, elle, c'était 12 ans. Alors, j'étire le mot 12. Hein? 12 ans. Pas 12 jours, pas 12 semaines, pas 12 mois, mais 12 ans. Et quand elle s'est accrochée à son vêtement, Jésus lui a dit, « Prends courage, ta foi t'a guéri. Tarsi. » Alors ça, c'est le tarsi, prends courage pour les gens qui passent par des épreuves qui durent depuis longtemps. Ça peut être des mois, des semaines ou peut-être des années. Prenez courage si c'est votre cas ce matin. La troisième fois où on voit cette expression-là, c'est dans Marc 6. Tempête de la vie. Alors, c'était au moment d'une tempête pendant la nuit. Et Jésus est apparu sur les eaux, etc. Puis l'expression qu'il utilise ici, c'est pas tarsi, mais c'est tarséit. C'est dans la même famille de mots. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors ça, c'est l'expression que vous avez peut-être besoin d'entendre si vous passez présentement par une tempête dans votre vie. Tarsit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Ce matin, on va terminer un thème, on va en voir 3 autres. Alors, dans Marc 10, tournez vos Bibles dans Marc 10. Marc 10, au verset 46. Alors, Marc 10, verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée. » Alors, qu'est-ce qu'on dit de Bartimée? Mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. C'est pas fort. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et c'est là-dessus que je vais insister ce matin. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. fils, mais il criait plus fort. Il n'a pas dit, mais il se tue. On me dit de me taire, alors je dois me taire. Mais il criait plus fort. Bartimée, c'est comme la femme de perte de sang de 12 ans. C'est accroché, ce vêtement-là. Alors, au lieu de se taire, il crie plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il y a de quoi dans la voix de Bartimée qui a saisi Jésus. Écoute, il y avait une foule. Il y a un homme qui crie plus fort. Et au-delà des mots, il y a de quoi qui a attiré l'attention du Seigneur Jésus ici. Et il dit, « Appelez-le. » Et l'appelèrent l'aveugle en lui disant quoi? « Prends courage, Tarsei, lève-toi, il t'appelle. » Et l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un seul bond. Vous savez quoi? L'espoir et l'énergie, ça va ensemble. Quand on retrouve un peu d'espoir, là, alors on retrouve le goût de se lever à nouveau. Et c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où l'expression « Tarsei » est utilisée par un autre que le Seigneur. Il l'appelait à l'aveugle et il lui dit, c'est la foule qui a dit « Tarsei, lève-toi, il t'appelle. » Alors, vous, ce matin, qui est peut-être dans une situation qui est désespérée comme cet aveugle né-là, cet aveugle. Et j'irais même jusqu'à dire que peut-être qu'on vous décourage. Ah, tais-toi! Arrête! Le Seigneur ne peut rien faire pour toi, c'est pas logique, ton affaire. Eh bien, dans le texte d'ici, là, c'est pas le Seigneur qui dit « Prends courage », c'est la foule. Alors, ce matin, c'est moi qui vous dis « Tarsei, prends courage, le Maître t'appelle. Va à lui encore et encore et encore et présente-lui ta requête et ignore ces voix décourageantes-là. » Et je dirais même, incluant votre propre voix. Comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas prié, là? Vos propres pensées vous tirent vers le bas. Oh non, ça ne donne rien. Ça fait tellement longtemps. Le Seigneur ne peut pas rien faire avec ça. C'est ici, c'est la leçon du texte ici. La foule décourageante. Et c'est une leçon pour nous comme Église, là, d'avoir un langage encourageant les uns pour les autres. Votre situation est peut-être extrêmement difficile, est peut-être très décourageante, mais elle n'est pas désespérée. Tarsei, prends courage. Il t'appelle. Continue à aller à lui. Laisse-toi pas abattre, décourager, peut-être par d'autres, ou peut-être par toi-même, parce que des fois, on est notre pire ennemi, hein? Bartimée, c'est ce qu'il nous enseigne ce matin. Luc 18, 1, le Seigneur, il nous donne une parabole qui dit, il donnait cette parabole-là pour nous encourager à persévérer à prier. Persévérer à prier. Alors, Bartimée. Le Tarsei numéro 5. Alors, tournez vos Bibles. Dans Jean 16, le cinquième Tarsei. C'est la dernière fois que le Seigneur Jésus utilise cette expression-là dans les Évangiles. C'est extrêmement significatif. Alors, dans Jean 16, et au verset 33. Jean 16, et au verset 33. Alors, voici ce qu'on lit dans ce texte-là. Dernière fois où Jésus utilise l'expression « tarsi », prenez courage. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais découragez-vous. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce texte-là là, est rempli d'informations. Alors, je vais le reprendre. Je vous ai dit ces choses. Qui est le « je » ? Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? C'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui dit ces choses-là. Mais quand il dit « j'ai dit ces choses », c'est tout ce qui a précédé. Mais pour savoir c'est quoi ces choses-là, bien, il faut les lire. Et vous pourrez regarder dans les chapitres précédents toutes les choses qu'il a dites. Et là, il termine, c'est sa conclusion ici. Il dit « je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ah, oh, ce mot-là, là, c'est comme « prends courage ». Depuis mars, là, il y a une panique. Jésus n'a pas dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la panique. » Mais « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » La paix. La paix en moi. Pas la paix dans le vaccin. La paix en moi. En attendant que les choses se calment, on peut être en paix. Et ça ne veut pas dire qu'on agit comme des insensés ou des imbéciles, mais on peut être en paix. C'est ce que Jésus nous donne ici. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas dans les circonstances, mais en moi. Et cette expression-là, en moi, c'est un peu comme dans la Genèse, là, Noé. Alors que le monde était après se faire détruire par un jugement qui était à la mesure de son péché, Noé était dans l'arche. Alors, qu'importe ce qui arrive dans le monde, on est en Christ. Et c'est en lui qu'on trouve la paix. Un peu comme Moïse avait la paix en Dieu dans l'arche. L'arche, c'est une image de Christ. Alors, Jésus nous offre la paix, mais il nous fait une promesse. C'est quoi? Vous aurez des afflictions. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, ou une autre traduction dit des afflictions. Alors, il n'a pas dit, vous allez avoir une vie facile, tout va bien aller, et puis vous allez être comme à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Il dit, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et c'est certain qu'un chrétien va avoir des afflictions. Il y a plusieurs raisons pourquoi on va avoir des afflictions. Oh, c'est correct. Écoute, vous aurez des afflictions. Et j'ai beaucoup pensé à ça. D'ailleurs, j'ai lu ce texte-là avec mes enfants cette semaine pour avoir leur son de cloche. Et ils m'ont donné quelques-unes de leurs réflexions. Mais vous aurez des afflictions ou des tribulations quand il y a une conversion. Il y a un changement de vie. Et je me souviens que dans mon cas, quand j'étais à Granby, j'avais une tonne d'amis, j'étais assez populaire, bon à l'école, bon dans le sport et tout ça. Puis là, tout d'un coup, il y a un changement radical. Les choses que j'aimais avant tout d'un coup, je ne les aimais plus. Et les choses qui ne me disaient rien avant, tout d'un coup, c'était les objets de mon affection. Et il y a eu un changement. Et ce qui me faisait rire avant, je ne trouvais plus ça drôle. Et c'est certain que ça a amené une sorte d'affliction. Alors, une conversion, une vraie conversion, il y a un changement. Et les autres le sentent. On fait une blague à double sens qui n'est vraiment pas appropriée. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Et les gens le sentent, ils le voient. Tout notre système de valeurs, notre humour, notre langage, nos priorités dans la vie, les gars avec qui je joue au tennis à Cornwall, ils m'ont souvent demandé de jouer le dimanche matin. Je dis non, le dimanche matin, je vais à l'église. Je ne sais pas si ça les achale ou pas, mais il reste qu'il y en a un de ceux-là qui m'a dit plus tôt au printemps, il dit « Sylvain, j'ai une bonne nouvelle pour toi alors qu'on joue un match de tennis. Il dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas être tellement content. » Il m'a dit, j'ai entendu M. Ford qui dit que les églises vont réouvrir. C'est un païen, un athée, là. Il savait que ça me réjouirait. Il y a une autre raison pourquoi est-ce qu'on va avoir des afflictions, des tribulations dans le monde, c'est que le message qu'on a, là, c'est un message qui est, à la base, qui est extrêmement offensant pour l'orgueil de l'homme. Ce qu'on dit, c'est que le Dieu de la Bible est saint, juste, parfait et qui est unique. L'évangélisation, ça commence souvent par établir la nature de Dieu. Et là, après ça, quand on continue, on établit quoi? La nature de l'homme. Et c'est là que ça frappe. Parce que quand on dit « Oh, Dieu est amour », tout de suite, la personne à qui on a dit ça, on dit « Bien, c'est sûr ». Dieu est amour, il doit sûrement m'aimer, je suis tellement aimable et tout ça, puis on lui dit non, tu n'es pas aimable. Tu es pécheur. Et ce Dieu qui est juste et qui est amour-là, si tu ne règles pas la question de ton péché, ta sentence, ça va être l'enfer. Alors c'est sûr que ça amène des tribulations ou des difficultés avec les gens. Il y a un autre point aussi qui fait qu'on a des difficultés ou des tribulations comme chrétien, c'est que quand on est nouveau, Saint-Esprit vient en nous et je suis encore pris avec ma vieille chair. Il y a une tension en dedans qui est parfois très, très violente. Alors, tournez vos Bibles dans Romains 7. Versets 22 à 25, Paul nous décrit un peu cette tension-là qu'il a en dedans de lui. Verset 22, Romains 7, verset 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Alors ça, c'est un homme qui est régénéré. « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors Paul sent cette affliction-là ou cette tension-là en dedans de lui. Puis là, il s'écrit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et là, il termine en disant, « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis dans la chair esclave de la loi du péché. » Alors, je ne sais pas ce matin, peut-être que vous vous demandez, comment ça que depuis que je suis rendu chrétien, il y a une tension dedans de moi entre ce que je sais de Dieu et ma nature pécheresse, mais c'est extrêmement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas vivre de tension. Le Saint-Esprit nous habite et nous tire dans une direction qui n'est pas toujours comme on aimerait. Et on se soumet, on dit, « Seigneur, c'est ta volonté, je veux qu'il soit fait, pas la mienne dans cette situation. Je veux t'honorer. » Et ici, regardez votre doigt dans Jean, quand il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde », alors on en a parlé un peu, et il y a tout aussi un autre aspect de la vie chrétienne, l'affliction, là, c'est ces tentations-là qui des fois viennent du malin, que Jacques et Pierre nous disent qu'on doit simplement résister au diable. Alors, c'est une autre affliction que des fois les chrétiens ont pu avoir. Mais là, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alors, concernant le monde, regardez dans Jean, mais allez dans 1 Jean 5. Et on peut lire les versets 1 à 5. 1 Jean 5, les versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, Jean, dans son épître ici, fait sûrement référence à cette parole-là qu'il nous a dit dans l'Évangile de Jean. Quand il a écrit l'Évangile, quand Jésus a dit « J'ai vaincu le monde », alors Jean revient avec cette vérité-là dans son épître. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas simplement ici, c'est évident que ce n'est pas une croyance simplement intellectuelle, mais celui qui croit ici a été transformé de l'intérieur et ça a un impact dans sa vie. Alors, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est le tarsé. Dieu nous promet, parce que Jésus a été vainqueur, je va être aussi vainqueur. Parce que je suis uni à Christ et que le Saint-Esprit est en moi, il va m'amener à une victoire complète. Et vaincre le monde, dans le fond, c'est refuser d'adhérer à toutes ses croyances et à ses pratiques. Et ça commence par l'origine. Qu'est-ce que le monde dit concernant l'origine? Au commencement, Dieu créa. Ça, c'est ce qu'un chrétien croit. Au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans le monde. Alors, je vins le monde. Non, je n'embarque pas là-dedans. C'est ce qui est écrit. C'est ça qui est l'autorité finale. Au commencement, Dieu créa. Un autre domaine où le chrétien est appelé à vaincre le monde dans ses croyances et dans ses pratiques, c'est concernant le mariage. Un homme, une femme. Je refuse de croire qu'un mariage, c'est deux hommes ou deux femmes. C'est un homme, une femme. Un autre domaine dans lequel les croyants sont appelés, les chrétiens sont appelés à vaincre le monde, c'est concernant la diversité au niveau de la sexualité. Non, il y a un homme, une femme, pas un paquet. Un homme, une femme. Concernant la nature humaine, ça en est un autre domaine, ça. Jean-Jacques Rousseau disait pas, lui, c'est lui qui disait, l'homme est essentiellement bon, c'est ça? Quelque chose de même? La bonté naturelle de l'homme, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. L'homme est pécheur, selon les Écritures. Concernant le salut, est-ce qu'on est sauvé par grâce ou par les œuvres? Tous les systèmes religieux du monde offrent un salut par les œuvres. Le chrétien, le christianisme offre un salut par la foi en Jésus-Christ seulement. Il n'y a pas plusieurs vérités, c'est ce qu'on nous dit dans le monde, mais dans le christianisme, ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il y a une vérité. À ce moment-là, c'est là qu'on voit que le monde, on le vainc, on refuse de compromettre et de se soumettre à ce qui est véhiculé dans le monde, qui est contraire aux Écritures. L'éternité, je parlais l'autre jour au village des valeurs, un monsieur il m'aborde, puis il voulait un peu d'argent, puis j'ai dit, je vais t'en donner, mais à condition que tu m'écoutes. Et puis, je lui dis, où est-ce que tu penses que tu vas passer l'éternité? Ben, il dit, au ciel. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis catholique. Puis je dis, donc, la croix de Christ, c'est pas ça qui est le fondement de ton salut. C'est ta religion. Et là, graduellement, on a parlé de différentes choses. Mais lui, il était un de ceux qui croient, comme la plupart des gens dans le monde, à l'universalisme. Vous savez c'est quoi l'universalisme? Si vous allez dans le dictionnaire de Webster, c'est la doctrine selon laquelle tous, finalement, seront sauvés. Tandis que la parole de Dieu, elle dit clairement qu'il y a un enfer. Ce n'est pas un mot populaire aujourd'hui en 2020. Et quand on y croit vraiment, c'est tout un motivateur pour les gens qui nous entourent. C'est pas qu'on les harcèle continuellement dans nos relations avec eux, mais au moins on prie pour eux. Mes partenaires de tennis, je prie pour eux. Priez pour les gens qui vous entourent. Il y a des âmes qui s'en vont en enfer. Quand on y croit, ça devient tout un motivateur dans mes relations avec les gens. Je veux les aimer, les écouter, prier pour eux, pour que quand il y a une occasion qui se présente, que je vais être présent pour les pointer vers Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés. Tandis que, ça c'est la nature humaine selon Dieu, qu'elle est pécheresse, mais la nature humaine selon le monde, le nouvel âge, elle est comment? Divine. Pour ceux qui écoutaient Winfrey, puis etc., là, qui est la prêtresse d'une secte d'à peu près 50 millions de personnes, qu'on m'a dit à un moment donné, qui l'écoutaient régulièrement, et puis à télévision, je pense, je ne sais pas moi, mais... Son langage, c'était semaine après semaine que j'ai lu sur elle, c'est « Vous êtes Dieu, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux », selon, avec différents mots et tout ça. C'était de rentrer dans la tête des gens qu'ils avaient une nature divine. C'est complètement le contraire aux Écritures. Et là, pourtant, elle a grandi dans les milieux baptistes. Et elle disait que ce qu'elle a appris à un moment donné, c'était que Jésus n'était pas venu ici pour nous dire qu'il était le Fils de Dieu, mais il était venu ici principalement pour nous dire comment Dieu on était. Tout en l'enfer. Et un autre aspect qu'on veut vaincre le monde, c'est que l'autorité finale dans notre vie, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. C'est un autre domaine où on vainc le monde, on résiste au monde. Alors Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors pour vous ce matin, peut-être que vous vous sentez un petit peu essoufflé dans le monde. Prenez courage. Jésus a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, vous allez vaincre. Découragez-vous pas. C'est pas facile. Les messages sont variés et constants, filtrés, vérifiés avec les Écritures, qu'est-ce que Dieu dit. Vous allez vaincre. Et je termine avec le dernier. Le dernier tarsii se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 23. Alors que Paul, chapitre 23, livre des Actes, verset 11, c'est la dernière fois qu'on trouve ce mot-là, hein, dans le Nouveau Testament. Et on le trouve dans le livre des Actes. Alors, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Tarsille, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Le Tarsée d'ici, là, c'est pour les serviteurs qui, des fois, peuvent être un peu découragés. Tu as rendu témoignage, là? Prends courage. Tu vas encore rendre témoignage de moi. J'ai un service pour toi. Alors, si vous traînez de la patte, vous êtes un peu découragé, un peu tanné, cette parole-là, elle est pour vous ce matin. Tarsée, prends courage. Tu as rendu témoignage à Jérusalem. Tu vas rendre témoignage à Rome. Ce n'est pas fini. On est encore vivant. Et tant qu'on a un souffle, on est appelé à rendre témoignage. Soit par ma vie, soit par des actions, par la prière, par des occasions de parler, d'aimer et d'encourager. C'est le tarsier pour les serviteurs éprouvés. Tu diras ça à ton mari quand il passe par des moments décourageants. Tarsier, prends courage, Jacques. Alors, je fais une révision rapide. On en a vu 6. J'ai dit qu'il y en a 7 dans le Nouveau Testament, mais la raison pourquoi je n'en ai pas donné 7, c'est qu'il y a 2 fois, c'est dans la même histoire. C'est l'histoire de la tempête, là. Elle se retrouve dans différents évangiles, puis c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Le premier tarsier, c'est « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Arrêtez de gratter la gale. Vous avez confessé les péchés, c'est fini, on n'en parle plus, c'est pardonné. » Prends courage, le deuxième, c'est ta foi t'a guéri. Ça, c'est ceux qui sont éprouvés depuis des années. Mais vous allez prendre courage et continuer à aller au Seigneur. Le troisième, c'est Tarsiit. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est le troisième, Tarsiit, prends courage. C'est quand vous passez par des tempêtes de la vie, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans l'église, dans votre vie personnelle, dans votre tête, dans votre cœur, quand c'est en tempête, tarsiez, prenez courage. Marchez un pas à l'avant. Numéro 4, c'est tarsiez, prends courage, le maître t'appelle. Ça, c'est quand vous avez des voix décourageantes, incluant la vôtre. Bartimée, crie plus fort, s'il faut. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Le cinquième, c'est prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si vous êtes essoufflé dans le monde un peu, vous êtes tanné de tout ce que vous entendez des fois, tarsiez, prenez courage. J'ai vaincu. Vous allez vaincre aussi. Et le dernier, c'est tarsiez. Prends courage, tu vas rendre témoignage. Ça, c'est pour les serviteurs qui sont peut-être un petit peu éprouvés. Alors, ma prière dans la préparation de ces 2 messages-là, c'était que chacun d'entre vous, vous repreniez courage. Et je ne dis pas si le découragement vient, mais je vous dis quand le découragement va revenir. Ma prière, c'est que ce mot-là, là, est imprimé dans votre tête. Pour que quand le découragement va revenir, vous vous rappeliez de ce mot-là. Tarsiez, prends courage. Et que ces mots de Jésus, ce matin, on a chanté quoi? Donne-moi Jésus. Alors moi, ce que je vous ai donné ce matin, c'est les paroles de Jésus. Prenez courage pour que quand le découragement va venir, tarsiez, prends courage, ça soit comme un rayon de soleil qui dissipe le nuage du découragement, puis qui vous redonne courage. La semaine prochaine, On va méditer. On a fini Tarsie. Alors, la semaine prochaine, je vous invite à parler, à discuter sur 5 vérités incontournables. On ne peut pas les contourner, ces vérités-là. La première, c'est que la vie est courte. La deuxième, c'est que l'éternité, c'est long en bébite. La troisième vérité qu'on ne peut pas éviter, c'est que le péché, c'est sérieux. Puis ça existe. La quatrième, ça va être que l'enfer est certain. On ne peut pas le nier, l'enfer. Et la dernière, c'est que le paradis est à notre portée. D'accord? Alors, prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ces mots-là dans ta Bible. Comme quand on entend « Je t'aime ». « Je t'aime » ou « Merci » ou « J'apprécie » ce mot-là, « Tarsie ». Que ce soit comme un mot dans cette Église, qu'il soit comme un mot de ralliement, une parole encourageante, et qu'on puisse avoir aussi des paroles encourageantes les uns pour les autres, et qu'aucun d'entre nous ne soit comme Bartimée, faire taire les autres, décourager les autres, mais plutôt encourager les autres. En Jésus-Christ, je te prie. Amen.